Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 11 juin 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran construit deux centrales nucléaires en coopération avec la Russie, a précisé le président iranien Hassan Rouhani. Le silence de l'Agence internationale de l'énergie atomique remet en cause sa neutralité, a souligné l'ambassadeur d'Iran et représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne. Le président syrien a déclaré que son gouvernement était capable de surmonter le blocus dirigé par les États-Unis. La CDAO déterminée à remporter la lutte contre le terrorisme. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran avait commencé à construire de nouvelles centrales nucléaires en coopération avec la Russie, louant les relations étroites que les deux parties ont nouées dans divers domaines, notamment la défense, outre le secteur énergétique. Lors de la cérémonie d'inauguration des projets appartenant au ministère de l'Énergie par visioconférence, Rouhani a exprimé sa gratitude à son homologue russe Vladimir Poutine pour ses efforts visant à consolider les relations politiques et économiques entre les deux pays. Il a évoqué la construction de deux centrales nucléaires dans le cadre d'un projet commun avec la Russie et a déclaré « Nous avons de bonnes relations avec la Russie dans les domaines militaires et de défense » qui ont connu un essor après les importations du S-300 de Russie, a précisé le président Rouhani. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Kazem Gharibabadi, ambassadeur d'Iran et représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré lors d'une réunion du Conseil des gouverneurs que le silence de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant la menace des armes nucléaires du régime sioniste, et les actes terroristes et le sabotage des installations nucléaires iraniennes par de ce régime a mis en question la neutralité et la crédibilité de l'Agence. Il a souligné que le rapport actuel du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique confirmait qu'il n'y avait aucun problème de garantie concernant les activités nucléaires de l'Iran. Ali Bobadi a ajouté, au cours de la dernière décennie, la question nucléaire iranienne a été continuée d'être soulevée à l'AIEA sur la base d'allégations sans fondement, alors qu'il n'y a même pas un seul élément de preuve concernant le détournement de matière nucléaire à des fins non pacifiques. Selon Gharib Abadi, l'Iran respecte ses obligations au titre de l'accord de garantie généralisée et continue de respecter ses dispositions. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré que son gouvernement était capable de surmonter le blocus dirigé par les États-Unis, de réduire l'impact des sanctions occidentales et de créer davantage d'opportunités d'investissement dans tout le pays. Il a fait ses remarques après avoir visité un certain nombre d'usines et d'installations dans la ville industrielle d'Adra, dans la banlieue de Damas. La Syrie a de véritables potentiels pour surmonter le blocus et réduire ses impacts et créer de plus d'opportunités d'investissement, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana, citant Bachar al-Assad. Le président syrien a visité le complexe industriel et discuté des moyens de stimuler la production et de surmonter aussi les obstacles auxquels sont confrontés les industriels et entrepreneurs syriens. Bachar al-Assad a souligné que son pays avait besoin pour être construit non seulement d'investissements, mais aussi d'une forte volonté et d'un sens patriotique aigu de tous les Syriens. La CEDEAO déterminée à remporter la lutte contre le terrorisme. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest est déterminée à remporter la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, a assuré mercredi le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui exerce également la présidence tournante de la CEDEAO. La lutte contre le terrorisme doit être collective et à ce titre, il incombe à la CEDEAO de s'unir et d'aider des pays tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, qui sont en première ligne de la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent, à remporter le combat, a-t-il dit dans un communiqué. Cet engagement a été pris à l'issue de son déplacement à Ouagadougou en signe de soutien à son homologue burkinabé, Roquet Marc Christian Caboret, après le massacre de plus de 100 civils par des terroristes présumés à Solan dans le nord-est du pays. Le fléau du terrorisme doit être jugulé en Afrique de l'Ouest si l'on veut que les civils puissent vivre dans la paix, la liberté, le progrès et la prospérité, a souligné le chef de l'État ghanéen. Un engagement ferme des pays membres pour déterminer un plan d'action global en vue de combattre efficacement le terrorisme devrait figurer en tête de l'ordre du jour du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu le 19 juin à Accra. Niger, 4 militaires tués dans une attaque terroriste dans le nord du pays. 4 membres des forces de défense et de sécurité FTS du Niger ont été tués dans une attaque contre leur convoi perpétrée par des individus non identifiés dans le nord du pays, près de la frontière avec l'Algérie, a annoncé jeudi le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué. Selon le communiqué cité par la radio publique nigérienne, une patrouille mixte a été victime d'une attaque armée perpétrée par des individus non identifiés dans une zone située non loin d'Assamaka, dans la région d'Agadez, au nord du pays. L'attaque a été repoussée par les FTS qui ont réussi à détruire un véhicule des bandits armés, a précisé le communiqué confirmant la mort de 3 policiers et un gendarme. Le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada, a rassuré dans le communiqué que des dispositions sécuritaires sont renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et de juger les auteurs de cet acte criminel. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance du Niger, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous, nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran construit deux centrales nucléaires en coopération avec la Russie, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'Iran avait commencé à construire deux nouvelles centrales nucléaires en coopération avec la Russie, louant les relations étroites que les deux parties ont nouées dans divers domaines, notamment la défense, outre le secteur énergétique. Lors de la cérémonie d'inauguration des projets appartenant au ministère de l'Énergie par visioconférence, Rouhani a exprimé sa gratitude à son homologue russe Vladimir Poutine pour ses efforts visant à consolider les relations politiques et économiques entre les deux pays. Il a évoqué la construction de deux centrales et de deux nucléaires dans le cadre d'un projet commun avec la Russie, a déclaré « Nous avons de bonnes relations avec la Russie dans les domaines militaires et de défense et qui ont connu un essor après les importations du S-300 de Russie. Au cours des 8 dernières années, les relations entre les deux pays se sont développées dans divers domaines. À cet égard, je remercie M. Vladimir Poutine, président russe, pour tous ses efforts au cours de cette période dans la dimension politique, économique et régionale, a-t-il déclaré. L'Iran et la Russie ont eu une coopération très importante dans le domaine de la Syrie et un partenariat trilatéral important dans le domaine de l'Azerbaïdjan et du Caucase. Nous avons également une très bonne coopération concernant l'Eurasie avec la Russie et les États membres. Concernant le régime juridique de la mer Caspienne, nous avons pris des mesures très importantes avec des pays amis, dont la Russie, a précisé le président Rouhani. Le président iranien a en outre souligné les liens militaires et de défense avec la Russie, ainsi que la construction des deux centrales nucléaires. Nos relations avec la Russie se sont élargies par rapport au passé. Ces jours-ci également, des efforts sont déployés avec la Russie pour relancer le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Ainsi, le développement des liens avec le voisin important, la Russie, sera dans l'intérêt des deux nations et profitera certainement à la région et à la résolution des problèmes mondiaux, a déclaré Rouhani, faisant référence à l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom du plan global d'action conjoint. Il a également évoqué l'accord entre Téhéran et Moscou sur la mise en œuvre de projets communs, notamment des centrales électriques et des chemins de fer en Iran. L'Iran et la Russie, tous deux soumis aux sanctions occidentales, entretiennent des relations cordiales dans différents secteurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, discours prononcé hier. Dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah a souligné ce qui se passe en Palestine occupée, à Quds et à Al-Aqsa, prouve que nous nous sommes
sommes confrontés à un ennemi d'idiot et de rancunier qui, empêtré dans la crise, pourrait fuir en avant. Netanyahou est aujourd'hui défait et qui patuge dans la crise pourrait recourir à des options hâtives pour en sortir, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah a également souligné que l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, que sa demeure soit au paradis, avait revivifié l'esprit de la révolution contre la tyrannie et l'esprit de la résistance contre les belligérants. Et Seyyed Hassan Nasrallah de préciser encore, les Palestiniens, quels que soient à Gaza, à Quds, en Cisjordanie et dans les territoires occupés de 1948, sont déterminés à défendre Quds et les valeurs sacrées. Il faut que l'Oumma les soutienne. Nous devrions faire remarquer de Seyyed Hassan Nasrallah de faire de sorte que toute agression contre Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develay. Maître Develay, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develay, c'est une analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci.
Madame Midani, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle est, d'après vous, l'importance de ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, qui a évoqué également la crise du Yémen, qui a évoqué également la crise que traverse actuellement le Liban, et tout en soulignant que le Liban peut solliciter l'aide de l'Iran pour, en fait, de sortir de cette crise. Votre lecture, votre analyse, s'il vous plaît.
De grandes victoires qui ont été réalisées en Palestine, au Yémen et en Syrie. Et puis en même temps, il y a une grande crise au Liban. Il a retracé, en fait, Mahmoud Chassoum a retracé l'historique des victoires de la résistance, en fait, et puis l'historique aussi de sa création, je dirais. Donc, c'est très important, en fait, de souligner effectivement toutes les victoires, surtout pour ceux qui sont en train de dénigrer et de renier ces victoires et de dire que c'est...
Madame Midanit, nous avons fait une mauvaise liaison avec Paris. Nous allons partir tout de suite, le monde de la technologie nous le permet, nous allons partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnon Develay. Mes amis à la régie vont revenir vers Aïssar Midani pour établir ce contact et cette liaison. Maître Develay, je vous pose en fait la même question. Quelle analyse portez-vous sur ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, s'il vous plaît?
Comme première impression, déjà, d'un discours qui portait à rassurer les habitants, rassurer les gens, non seulement quant à l'état de santé, vous savez, beaucoup de rumeurs ont circulé ces dernières semaines, certainement amplifiées, peuvent porter par certaines parties qui avaient intérêt justement à laisser un peu les doutes. Donc, il a appelé à rassurer en première que sa santé était au beau fixe. Et que toutes les analyses d'experts porteraient à essayer de les deviner de quoi les alliés souffriraient sont des préventifs. Rassurant aussi, il y a un ton qui, dans sa maestria habituelle, a appelé la télévision régionale en soulignant bien sûr. La situation donc, dans la péninsule arabique au sens large, la victoire économique contre l'agression de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, en mettant le poids aussi en insistant sur le fait que lorsque les opérations militaires ne vont pas dans le sens des investisseurs, malheureusement, c'est la population qui est guidée. Et que dans ce contexte particulier, les offres de paix ou les approches sont en fait empreintes de critiques, puisqu'elles n'hésitaient pas justement à alléger les bus qui empêchent les peuples économiques de manger à sa faim. Il a aussi évoqué la situation en Syrie en parlant bien, en soulignant bien justement cette opération dite FITNA. Parce que c'est ce qui caractérise la situation syrienne dans sa genèse, et jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, en soulignant que les portes légitimes avaient repris la main sur la situation. Et il a aussi évoqué la situation au Liban en mettant, j'allais dire, sous l'optique ses alliés de la coalition. Que s'il ne prenait pas la responsabilité en formant un gouvernement, il prendrait acte de la situation et prendrait les mesures nécessaires pour éviter justement que le peuple libanais soit lui-même l'objet d'un siège alimentaire et économique tel que le pays s'en rendait pas capable. Il a mis en garde, il a été très clair sur ça. Et point très important, il a dit essentiellement, mais il n'est pas peur de terminer. On dirait que vous êtes probablement en parlant de ces années, vous semblez avoir une peur non fondée des États-Unis, et ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous mettons une sous-avertissement, que si vous ne prenez pas les décisions législatives qui permettent d'entériner les mesures que nous avons commencé à prendre, nous prendrons les mesures qui sont en parce que bah, nous sommes un parti responsable, un parti qui a été responsabilité, et ce que nous ne pouvons pas, que la situation se détériorer sans rien faire. Mmh. C'est une façon un peu de rassurer l'horizon, de rassurer les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhensions quant à l'avenir en ce moment, et la voix de Khaled Nasrallah dans ce contexte est toujours des plus rassurantes.
Notre liaison, merci beaucoup, notre liaison, fort heureusement, avec Paris, et plus précisément avec Madame Aïssa Midani a été rétablie. Madame Midani, rebonjour.
Rebonjour, rebonjour à vous.
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends bien, oui. Et vous m'entendez bien?
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bon, notre liaison a été mauvaise. Là, notre liaison est très bonne. Madame Midani, vous étiez en train de faire votre analyse de ce discours de Saïd Hassan Nasrallah. Je vous en prie, la parole est à vous.
Ok, alors effectivement, je disais que c'était important de rappeler l'ensemble des victoires depuis la création de la résistance qui a été donc dans les années 80-82 qui a été créée. Et l'ensemble des victoires qui se sont soldées par la libération du Liban en 2000, du Sud-Liban en 2000, puis la victoire en 2006, et puis l'ensemble des victoires aussi bien de la résistance libanaise, mais aussi de la résistance palestinienne, de la construction de ponts entre la résistance libanaise et la résistance syrienne avec le peuple syrien, le peuple palestinien et le peuple yéménite. En fait, toutes ces victoires et toutes ces synergies au niveau de la résistance étaient aussi animées et construites par la radio-télévision Almana, qui est une télévision et radio engagée pour la résistance et qui ne cherche pas du tout le profit, mais qui cherche plutôt à construire effectivement cet esprit de résistance et d'offensive et en fait et de vérité. Donc, il était important aussi, ce qu'il a souligné, et c'était très très important, c'est que de toute façon, il y avait aussi, on a affaire à des ennemis qui sèment toujours la, qui sèment le doute et qui sèment la discorde, qui cherchent toujours à créer diversion. Et nous sommes, en fait, Ismaïl, à surmonter la diversion et on arrive par la prise de conscience de nos intérêts communs face à cet ennemi sioniste hein, qui est là et qui est idiot et qui est aussi peut aller très loin en période d'aventure. Donc, c'était important de mettre les holola et les lignes rouges à cet ennemi. Et puis, aujourd'hui, il est important aussi d'être prêt, toujours, pour d'être prêt pour les batailles à venir. Mais aussi, donc, il a souligné les dernières victoires de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, mais aussi de la Syrie, du peuple syrien et de sa résistance aussi. Donc, cette coopération au niveau des résistances qui a fait, qui a changé la donne, je dirais, au niveau de la région. Mais aussi, il est important, donc il est revenu à la fin sur la crise libanaise où il affirme qu'il n'y a pas de fatalité, que de toute façon, les solutions sont là. On peut toujours avoir des solutions. Nos ennemis cherchent à nous faire mourir de faim et à chercher à nous mettre à genoux. Nous n'accepterons pas ça, nous ne le ferons pas. Nous avons des solutions, nous avons des amis très proches, stratégiques comme l'Iran, qui pourraient, à la suite d'une décision importante, courageuse, une décision politique libanaise qui pourrait être prise par des responsables politiques libanais, elle pourrait nous fournir l'essence, le fuel, etc., qu'il nous faut. Donc, en fait, il ne faut pas accepter cet état, il ne faut pas accepter ces solutions que l'Occident peut nous imposer, qui sont des solutions qui nous mettent à genoux et qui nous mettent à leur merci, parce qu'il y a d'autres solutions où nous pouvons être toujours souverains et respectés. Donc ça, c'est un point, je pense que ce sont des différents points très importants. Il a souligné l'importance aussi de l'alliance stratégique entre toutes les... pas seulement dans l'axe de la résistance, mais aussi que de toute façon, la Jérusalem est... Jérusalem, c'est quand même le centre de la religion musulmane et de la religion chrétienne, et il est important de défendre Jérusalem, que la défense soit prise en compte par l'ensemble des peuples musulmans et des peuples chrétiens face à cette offensive, et que aujourd'hui il faudra qu'on mette il faut quand même que l'ennemi comprenne que l'agression contre Jérusalem, ça veut dire aussi une guerre très importante régionale et qui le mettra en danger. Ce sont les points clés, je dirais. Et il est important aussi que, de reconnaître que ce sont que les Palestiniens aujourd'hui, les Palestiniens de Palestine occupés en 1948, les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza, ils ont défendu, et de Jérusalem, ont jusqu'à présent défendu et défendent toujours Jérusalem, mais il faudra aussi les soutenir et s'engager dans ce combat de défense de Jérusalem qui est le nôtre.
Merci beaucoup. Maître Develé, Madame Idani vient de faire allusion en fait à ce point qui a été évoqué par le secrétaire général du Hezbollah libanais qui a en fait souligné que la défense d'Al-Quds, la première des priorités. Et il a, Madame Midani également vient de l'évoquer tout à l'heure, a dit que voilà, nous devons agir de sorte que toute agression contre Al-Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. Maître de volée là, Seyyed Hassan Nasrallah semble avoir lancé une sévère mise en garde au régime israélien, comme quoi s'il y a une agression contre Al-Quds, ça entraînera une guerre régionale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments et des composantes de l'axe de la résistance y réagira.
Oui, tout à fait. De toute façon, Saïd Nasrallah a toujours été cohérent dans ses positionnements stratégiques et il tient le discours de quelqu'un. Il a confiance en ses forces, en sa capacité à infliger des coups de terrible à l'ennemi. Et ce faisant, il tient à lancer un message plus ou moins voilé aux autorités sionistes, que ceci soit à l'avenir représenté par la coalition avec un certain nationaliste, ou bien en faveur de. Une cuisine interne israélienne, un retour aux affaires de Netanyahou, ça n'a aucune importance de toute façon. Par contre, ce qui se dit, c'est qu'on a en Netanyahou quelqu'un d'extrêmement impulsif, revanchard, on va dire amer et pacifisme à toutes les fois. Comme il a compris à qui il avait affaire, il met en garde quelque part le Netanyahou ou les autorités sionistes de manière générale contre toute tentation de créer une situation d'insulté qui, comme il l'a suivi, effectivement, en Samara, une réponse à l'échelle régionale, ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et c'est aussi une manière d'envoyer un message que malgré les difficultés que traverse le Liban actuellement, n'allez pas imaginer que les capacités et la vigilance de l'Hezbollah s'en trouvent inversement affectées. Donc, que les choses soient bien claires. Donc, c'était important de le souligner. Il l'a souligné dans son discours. Et à partir de là, que les choses soient claires. Non seulement nous sommes prêts à cette éventualité, et d'ailleurs, les provocations, c'est derniers jours, on le souligne. Hein, on a eu. C'était pas quelque chose d'assez grotesque, d'assez pittoresque, avec l'armée sioniste qui a déployé des blindés pour une histoire de fameux à la frontière, sans succès d'ailleurs. Et puis ce matin encore, des fusées imminentes en plein jour. Donc c'est un petit peu le genre de comportement irrationnel auquel nous sommes confrontés, enfin auquel nous sommes témoins. Il faut raison garder. De toute façon, les sionistes ont été rappelés à l'ordre, si je puis dire, au travers des 11 jours d'opération de la route. Le paradigme a changé, les forces en présence ont complètement mis à jour leur synergie et leur capacité politique à constater toute agression sioniste. Et qu'à partir de là, le discours est cohérent, il est limpide, il est clair et il est plus consistant.
Madame Midani, s'agissant en fait du Yémen, Seyyed Hassan Nasrallah a qualifié en fait de trompeur le geste de médiateur que s'offrent les États-Unis envers la crise du Yémen. En fait, s'agissant de ce point, il a précisé, tout cela est pour induire tout le monde en erreur, car les États-Unis veulent mettre un terme à la guerre tout en maintenant le blocus. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Exactement, c'est tout à fait parce que les États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, n'arrêtent pas de proposer soi-disant des cessez-le-feu, mais en fait, D'abord, les Saoudiens ne cessent pas du tout, ils continuent à bombarder et à bombarder les civils et à bombarder l'ensemble des installations au niveau du Yémen. D'un autre côté, on voit que l'embargo continue, il y a même des navires avec des produits pétroliers qui sont dans le port pas loin du port de Hodeïda que nous interdisent aussi de les décharger au Yémen. C'est effectivement, donc ils veulent continuer, ils veulent que les Yéménites arrêtent les combats, alors que les Saoudiens continuent à bombarder, et ils veulent aussi, il n'est pas question de lever l'embargo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imposer des conditions à un peuple qu'on affame, qu'on affaiblit, qu'on essaye d'affaiblir aussi au niveau de la santé en temps d'épidémie, et qu'on veut faire effectivement négocier, voire en fait faire du chantage à ce peuple et aux révolutionnaires yéménites, leur faire du chantage avec une sorte de goutte à goutte alimentaire, hein, et chaque goutte serait l'objet d'un chantage et puis les faire céder. Donc c'est ce que Samahat Cheikh Nasrallah a dit, que c'est un véritable mensonge, que les États-Unis mentent et ils font miroiter des choses alors qu'ils ne les appliquent pas, et il faut prendre conscience que ce sont des vrais menteurs qui veulent avoir le tout pour rien, et qui font justement qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent la paix, alors que c'est un discours trompeur, je dirais.
Merci.
Comme la majorité des discours, en fait, des États-Unis et puis de leurs alliés dans les guerres, pas seulement dans cette guerre, à vrai dire, parce que nous, en Syrie, on en a aussi une véritable expérience de ce qu'ils racontent, des mensonges.
Merci beaucoup.
Qu'ils publient aussi, et la réalité de leurs actions.
Merci infiniment, Madame Aïssa Armidani, d'avoir été avec moi pour cette émission. Et depuis Paris, mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud de Volet qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
La Chine a fermement condamné les États-Unis pour avoir approuvé un projet de loi visant à contrer ce que les États-Unis considèrent comme une menace technologique chinoise. Le Parlement chinois a déclaré que le projet de loi diffame les politiques intérieures et étrangères de la Chine et constitue une ingérence dans les affaires intérieures. Comment évaluer cette décision américaine et la réaction de la Chine ? Xavier Dupré, expert des questions politiques et économiste, nous répond.
Alors tout d'abord, en ce qui concerne les tensions entre Washington et Pékin, il faut signaler que ces dernières ne sont pas toutes récentes. On se rappelle des mesures de rétorsion commerciale, de protectionnisme industriel et commercial qui avaient été édictées par Donald Trump il y a de cela déjà bien 4 ans. Force est de constater que la stratégie adoptée par Joe Biden n'a en la matière pas varié d'un iota. Donc, il y a effectivement des tensions commerciales importantes entre la Chine et les États-Unis. Et la cause, si vous voulez, si on a la même politique que sous Donald Trump, c'est que les causes sont identiques, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, selon l'adage bien connu. En réalité, ce que veulent à tout prix éviter les États-Unis, c'est une montée en gamme sur le plan industriel, sur le plan de la valeur ajoutée de l'industrie chinoise. Et donc, finalement, ils veulent éviter une diffusion des technologies occidentales en Chine et l'incorporation de ces technologies dans les process de production en Chine, contrairement à ce qui s'était passé avec d'autres grandes nations asiatiques, telles que la Corée du Sud ou le Japon. Donc, voilà, là c'est très clair. Alors évidemment, ce blocage est d'autant plus problématique qu'en réalité, ce que vise Joe Biden à travers cette politique de containment de l'industrie chinoise, eh bien, l'anomalie vient du fait qu'on empêche des fonds chinois d'acquérir des entreprises américaines et d'organiser le transfert de know-how, de savoir-faire sur le plan technologique, en décrétant que, et en mettant sur liste noire toute une série d'entreprises chinoises qui sont évidemment des entreprises de pointe, qui sont celles sur lesquelles mise le gouvernement chinois pour augmenter la valeur ajoutée des industries nationales chinoises. Voilà, donc ça c'est le cadre général, les causes et les manifestations. Que penser de la réaction chinoise ? La réaction chinoise est une réaction, d'abord, bon, vous avez bien fait de signaler que le gouvernement chinois s'indigne de cette décision.
Le Forum de Saint-Pétersbourg trace les contours du siècle eurasiatique. Alors que les sommets du G7, de l'OTAN et de l'Union européenne, toutes des plateformes de projection de la puissance américaine, mettront en évidence l'insignifiance de l'Europe. Il est impossible de comprendre les détails de ce qui se passe sur le terrain en Russie et dans toute l'Eurasie sur le plan commercial sans suivre le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Allons donc droit au but et proposons quelques exemples choisis de ce qui est discuté lors des principaux panels. L'Extrême-Orient russe, voici une discussion sur les stratégies largement couronnées de succès visant à stimuler les investissements productifs dans l'industrie et les infrastructures dans l'Extrême-Orient russe. L'industrie manufacturière en Russie a connu une croissance de 12,2% entre 2015 et 2020. En Extrême-Orient, elle a presque doublé à 23,1%. Et de 2018 à 2020, l'investissement en capital fixe par habitant était 40% plus élevé que la moyenne nationale. Les prochaines étapes sont centrées sur l'amélioration des infrastructures, l'ouverture des marchés mondiaux aux entreprises russes et surtout la recherche des fonds nécessaires pour les technologies de pointe. L'Organisation de coopération de Shanghai, comme nous avons pu le constater lors des précédentes éditions du Forum, il n'existe rien de comparable en Occident pour ce qui est de discuter sérieusement d'une organisation telle que l'OCS, qui a progressivement évolué de son objectif initial de sécurité vers un rôle politico-économique de grande envergure. La Russie a présidé l'OCS en 2019-2020 lorsque la politique étrangère a pris un nouvel élan et que les conséquences socio-économiques du Covid-19 ont été sérieusement abordées. Désormais, l'accent devrait être mis sur la manière de rendre ses nations membres, en particulier les stans d'Asie centrale, plus attrayantes pour les investisseurs mondiaux. Parmi les palénistes figurent l'ancien secrétaire général de l'OCS et l'actuel secrétaire général, donc Vladimir Norov. Partenariat eurasiatique. Cette discussion porte sur ce qui devrait être l'un des nœuds essentiels du siècle eurasiatique, le corridor international de transport nord-sud. Un précédent historique important s'applique. La route commerciale de la Volga des 8e et 9e siècles qui reliait l'Europe occidentale à la Perse et qui pourrait maintenant être prolongée dans une variante de la route de la soie maritime jusqu'au port de l'Inde. Cela soulève un certain nombre de questions allant du développement du commerce et de la technologie à la mise en œuvre harmonieuse de plateformes numériques. Les panélistes sont originaires de Russie, d'Inde, d'Iran, du Kazakhstan et d'Azerbaïdjan. Le partenariat de la Grande Eurasie. La Grande Eurasie est le concept russe global appliqué à la consolidation du siècle eurasiatique. Cette discussion est largement axée sur la big tech et notamment la numérisation complète, les systèmes de gestion automatisés et la croissance verte. La question est de savoir comment une transition technologique radicale pourrait servir les intérêts de la pan-Eurasie. Et c'est là que l'Union économique eurasiatique dirigée par la Russie entre en jeu. Comment la volonté de l'UEEA de créer un grand partenariat eurasiatique devrait-elle fonctionner dans la pratique? Parmi les intervenants figurent le président du conseil d'administration de la Commission économique eurasiatique et une relique du passé d'Elstin, Anatoly Choubé, qui est désormais le représentant spécial de Poutine pour les relations avec les organisations internationales en vue de réaliser les objectifs de développement durable. La table ronde la plus intéressante de la SPIEF était consacrée à la nouvelle normalité ou anomalie post-Covid-19 et à la manière dont l'économie sera remodelée. Une sous-section importante porte sur la manière dont la Russie peut éventuellement en tirer parti en termes de croissance productive. Ce fut une occasion unique de voir la directrice générale du FMI, le gouverneur de la Banque centrale russe et le ministre russe des Finances débattre sur la même table. En fait, c'est Siluanov qui a fait tous les gros titres du SPIEF lorsqu'il a annoncé que la Russie allait abandonner totalement le dollar américain dans la structure du Fonds souverain national, le Fonds souverain russe de facto, et réduire la part de la livre sterling. Le NWF aura plus d'euros et de yuan, plus d'or et la part du yuan restera stable. Ce processus de dédollarisation en cours a été plus que prévisible. En mai, pour la première fois, moins de 50% des exportations russes étaient libellées en dollars américains. Siluanov a expliqué que les ventes d'environ 119 milliards de dollars d'actifs liquides passeront par la Banque centrale russe et non par les marchés financiers. En pratique, il s'agira d'un simple transfert technique d'euros vers le NWF. Après tout, la Banque centrale se débarrasse régulièrement des dollars américains depuis des années maintenant. Tôt ou tard, la Chine suivra en parallèle. Certaines nations d'Eurasie, de manière extrêmement discrète, se débarrassent également de ce qui est de facto la monnaie d'une économie basée sur la dette à hauteur de dizaines de trillions de dollars, comme l'a expliqué en détail Michael Hudson. Sans compter que les transactions en dollars américains exposent les nations entières à une machine judiciaire d'extorsion extraterritoriale. Sur le fond très important de la Chine et de la Russie qui a été abordé lors de toutes les discussions du SPIEF, le fait est que l'association du savoir-faire technique chinois et de l'énergie russe est plus que capable de consolider un marché pan-eurasien massif capable d'éclipser l'Occident. L'histoire nous apprend qu'en 1400, l'Inde et la Chine étaient responsables de la moitié du PIB mondial. Alors que l'Occident se vautre dans un effondrement auto-induit de Build Back Better, la caravane eurasiatique semble inarrêtable, mais il y a aussi ces satanées sanctions américaines. La session du club de discussion Valdaï a approfondi l'hystérie, les sanctions servant un agenda politique menace de vastes pans de l'infrastructure économique et financière mondiale. Nous en revenons donc une fois de plus au syndrome inéluctable du dollar américain militarisé déployé contre l'Inde qui achète du pétrole iranien et du matériel militaire russe ou contre les entreprises technologiques chinoises. Les panélistes, dont le vice-ministre russe des Finances et le rapporteur spécial des Nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l'homme, ont débattu donc de l'inévitable nouvelle escalade des sanctions anti-russes. Un autre thème récurrent dans les débats de Spiev est que, quoi qu'il arrive sur le front des sanctions, la Russie dispose déjà d'une alternative à SWIFT, tout comme la Chine. Les deux systèmes sont compatibles avec SWIFT au niveau logiciel, de sorte que d'autres nations pourraient également l'utiliser. Pas moins de 30% du trafic de SWIFT concerne la Russie. Si cette option nucléaire devait un jour se concrétiser, les nations commerçant donc avec la Russie abandonneraient presque certainement SWIFT. En outre, la Russie, la Chine et l'Iran, le trio menaçant de l'hégémon, ont conclu des accords d'échange de devises bilatéralement et avec d'autres nations. Cette année, le SPIEF a eu lieu quelques jours seulement avant les sommets du G7, de l'OTAN et de l'Union européenne qui mettront en évidence l'insignifiance géopolitique de l'Europe réduite au statut de plateforme de projection de la puissance américaine. En moins de deux semaines avant le sommet Poutine-Biden à Genève, le SPIEF a surtout rendu un service public à ceux qui y prêtent attention en traçant certains des contours pratiques les plus importants du siècle eurasiatique.